Shalom, shalom à tous. Erev Tov, les Koulam. Shalom Ouvracha. Et voilà, on se retrouve pour notre cours hebdomadaire repassé. Ça y est, hein, on n'est plus dans l'été, donc on est repassé au mardi. Voilà, c'était notre jour habituel. Alors, l'horaire est toujours un petit peu différent qu'on avait l'habitude. On étudiait à 6h et non plus à 8h15. Mais voilà, on en est repassé le mardi, c'est toujours ça de prix. Donc, est-ce que tout le monde m'entend? Voilà, faites-moi un signe. Est-ce que tout le monde m'entend? Shalom, shalom, Houston, Houston. Est-ce qu'on m'entend bien? Oui, on entend. Très bien. Très bien. Alors, on va juste attendre, super, le Ishour de la Midrashet Yehuda, qu'on puisse commencer. Et dès qu'on a le Ishour, eh ben, on commence. Donc, Midrashet Yehuda, Houston, en régie. Donnez-moi le feu vert et on se lance. J'ai un petit Ishour. C'est bon, on peut y aller. Yala, Midrashet Yehuda a dit OK, OK. Alors, c'est parti. Eh bien, Erev Tov les Koulam. Yofi, super. Alors, on commence. Erev Tov les Koulam. Et là, je suis très heureux de pouvoir lancer une nouvelle étude ensemble. Alors, je vous explique un petit peu la réflexion qu'il y a derrière cette étude. Au départ, la Midrashet Yehuda m'avait demandé est-ce qu'on pouvait étudier un petit peu les Pirkei Avot. Ce à quoi j'ai répondu, est-ce que vous voulez une étude suivie du livre? Donc, on prend Pirkei Avot et on y va. Et ils m'ont répondu, non, pas forcément, mais prends des Mishnayot de ton choix et on y va. Et j'ai donc réfléchi longuement et je me suis posé la question, eh bien, l'idée est très bonne, mais pourquoi se limiter à Pirkei Avot? Si l'objectif est maintenant d'étudier la Mishnah, de prendre certaines Mishnayot et d'essayer de les approfondir, eh bien, ce n'est pas la peine de se limiter à simplement le traité de Maseret Avot. Et donc, eh bien, est né aujourd'hui, pour la première fois, le cours « La Neshama de la Mishnah ». C'est-à-dire que le principe du cours va être chaque semaine de prendre une Mishnah ou deux, on verra en fonction, des fois il y a deux Mishnahot qui se suivent dans certains traités qui parlent du même sujet, donc une Mishnah ou deux, et de les traiter. Alors ce ne sera pas forcément les Mishnahot les unes à la suite des autres, évidemment que non. On va prendre des Mishnahot éparpillées dans tout le chasse, dans tout le Shisha Sidre Mishnah, et essayer d'en sortir non pas simplement une étude, j'ai envie de dire, un petit peu sèche de la halakha, mais quel est le ra'ayon, quelle est l'idée profonde qui se cache derrière cette Mishnah en question. Donc voilà l'idée. Et c'est pour ça qu'on a appelé ce cours la Neshama de la Mishnah. En fait, cette appellation ne vient pas vraiment de moi. Je ne fais que reprendre l'enseignement du Rav David HaKohen, à savoir le Rav Nazir. Rav David HaKohen, l'élève du Rav Kook, avait dit cette formulation extraordinaire. Il avait dit « Me'az shenigneza nishmat ayahadut sudra mishnata ». En français, dès lors que l'âme du judaïsme a été mise dans une bouteille à la mer, eh bien, a été mise en place sa Mishnah. Qu'est-ce que cela veut dire ? Eh bien, il faut bien comprendre une chose. Aujourd'hui, quand on étudie la Mishnah, c'est le point de départ de l'étude de la Halakha. Alors qu'en réalité, derrière la Halakha se cachent des mondes entiers de profondeur incroyable. Et j'aimerais, alors comme c'est le premier cours, j'aimerais un tout petit peu, avant de rentrer dans la Mishnah qu'on va étudier ce soir, j'aimerais un tout petit peu rentrer un petit peu plus en profondeur dans la description du pourquoi, du comment. La galoute a gagné. L'exil a vaincu Eretz Israël quant au limoud à Torah. Je m'explique. La Torah a toujours été double. Il y a la Torah écrite, évidemment, et la Torah orale. Jusque-là, pas de problème. Ça a commencé depuis Moshe Rabbeinu, puisque Moshe Rabbeinu, d'un côté, a écrit le Pentateuque, mais d'un autre côté, il a écrit dans ce Pentateuque « Vaïdaber Hachem el Moshe, les morts ». va yomer Moshe. En d'autres termes, la Torah, elle a commencé avec Moshe en étant et écrite et orale, bien évidemment. Les deux ayant deux rôles complètement différents. La Torah écrite étant là pour nous expliquer qui est le peuple juif, la Torah orale étant là pour nous expliquer qu'est-ce qui fait ce peuple juif, comment est-ce que ce peuple juif se comporte. Cependant, à l'époque, lorsque cette Torah orale était bel et bien orale, eh bien, l'action était forcément liée à l'idée qui s'en cachait. Lorsque tu étudies avec quelqu'un en face de toi, oralement, et qui te dit de faire ça et ça et ça, la première question qui te vient à l'esprit, c'est, et tout légitimement, pourquoi ? Vous savez, il y a deux dimensions différentes dans notre rapport à Dieu. Nous pouvons être soit avadim, soit banim. Soit nous sommes les serviteurs de Dieu, soit les enfants d'Akadosh Baruch. Évidemment que avodat ben, c'est yoter tov, mais avodat eved. C'est mieux d'être un fils que d'être un serviteur, bien évidemment. Il y a une troisième madriga, j'en parle pas là maintenant, qui s'appelle Eved Hashem. Certains y arriveront, comme Moshe particulièrement, c'est parce qu'il est tellement fils qu'il veut devenir Eved. Mais venez, on met ça de côté. La Gemara dit, quelle est la différence entre la façon dont un Eved se comporte envers son maître, d'un fils qui se comporte envers son père? Et la Gemara nous dit, en fait, il n'y a pas de différence. Ce que fait le serviteur à son maître, c'est exactement ce que fait le fils à son père. Il y a pourtant une différence. C'est que le fils a le droit de demander pourquoi à son père. En d'autres termes, l'idée même d'être un fils, c'est de demander lama. Et donc, lorsque dans la Torah orale, on va te dire « fais ça », la première chose que tu vas demander, c'est lama. Et donc, il va y avoir une interaction et tu vas comprendre la profondeur de la chose qui se traduit par une action X ou Y. Mais lorsqu'on va t'écrire la halakha, lorsque Rabbi Yehuda Hanassi va mettre en place la Mishnah par écrit, eh bien, on coupe l'interaction vivante. Et à partir de ce moment-là, eh bien, on n'aura plus que le mode d'emploi de qu'est-ce qu'il faut faire. Cette Mishnah, eh bien, après, va se subdiviser en deux ouvrages. Le Talmud de Babylone et de Jérusalem. Le Talmud de Babylone va expliquer le protocole de comment on est arrivé à ce qu'il faut faire, mais va se contenter de rester dans ce qu'il faut faire. Et lorsque le Talmud de Babylone voudra nous expliquer des choses qui sont du domaine de la Haggadah, c'est-à-dire du domaine de la réflexion et non pas de ce qu'il faut faire, eh bien, on séparera complètement les sujets de Haggadah des sujets de Halakha. Alors que dans le Talmud de Jérusalem, Haggadah et Halakha sont complètement et intimement relié, comme ça l'était à l'époque où c'était oral. Malheureusement, comme l'exil a gagné, c'est-à-dire qu'à un moment donné, la centralité de la Torah est devenue Babylone, que les Byzantins ne nous ont pas permis de nous réunir ici en Eretz Israël et que c'est devenu très compliqué de pouvoir étudier, enseigner la Torah en Israël, eh bien, on a pris la façon d'étudier de Babylone comme étant le maître à penser du judaïsme. Mais nous n'avons pas le droit d'oublier la neshama de la Mishnah, c'est-à-dire le pourquoi profond, le qu'est-ce que ça veut dire, le qu'est-ce que ça nous apprend, au-delà de simplement qu'est-ce qu'il faut faire. Et donc, c'est ça l'objectif de notre cours, de prendre des Mishnayot dispersées dans tout le chasse et d'essayer d'en comprendre, eh bien, si vous voulez, les raisons profondes. D'ailleurs, en général, les raisons profondes se cachent derrière un accomplissement technique. Mais on verra ensemble, Bezrat Hashem, que cet accomplissement technique, en fait, ne l'est pas du tout. Et il dépend de quelque chose de beaucoup plus profond. Et c'est ce que nous allons voir ensemble. Alors, juste avant de prendre la Mishnah, nous souhaitons un bon anniversaire à Hadassa, qui a son anniversaire aujourd'hui, malgré le fait que son anniversaire ne soit qu'en date loazite et non pas en date vraie pour de vrai, mais on peut quand même lui souhaiter un bon anniversaire. Amen. Kenyi Ratzon. Maintenant, je vous propose de rentrer directement dans notre première Mishnah, donc de la Neshama de la Mishnah. Je vous invite à prendre avec moi le début. J'ai appelé ce premier cours, chapitre 1, la première question. Nous allons donc aujourd'hui, vous allez dire que c'est complètement révolutionnaire, mais on va commencer par le début. Et donc, je vous invite à prendre le traité de Brachot à la première Mishnah, chapitre 1, Mishnah 1. Alors, c'est parti. Chapitre 1, Mishnah 1, Masechet Brachot. Comprenez-moi bien. Je passe ici un tout petit coup de gueule contre le monde des yeshivot dans lequel j'ai grandi, Baruch Hashem, et dans lequel je compte continuer à évoluer. Mais il y a un grand problème. C'est que quand tu rentres dans la yeshiva, quand on commence à te faire enseigner le Talmud, à te faire étudier après enseigner le Talmud, eh bien, tu commences par des masertot kashot. Baba Kama, Baba Metzia. Je ne sais pas pourquoi il y a une telle volonté de ne pas vouloir commencer par le début. Rabbi Yehuda Hanassi commence par Brachot, c'est pas pour rien. Ça, c'est du point de vue de l'étude. Maintenant, de notre point de vue, vous comprenez bien que là, on va parler de la toute première Mishnah de l'enseignement de la Torah chez Baal Peh mis sur papier. Alors, on sait pourquoi Rabbi Yehuda Hanassi va mettre la Mishnah sur papier. Il faut bien comprendre une chose, là aussi, c'est pas du tout évident d'écrire la Mishnah. Puisque écrire la Mishnah, c'est un interdit de la Torah. Dvarim shebirtav iyata rachai le omram be'alpe. Tu n'as pas le droit de dire oralement des choses qui sont birtav. De la même façon, tu des dvarim shebe'alpe iyata rachai lirtov. Les choses qui sont be'alpe ou par oral, tu ne peux pas les mettre par écrit. Tu dois les laisser par oral. Donc pourquoi Rabbi Yehuda Hanassi a mis en place la Mishnah par écrit? Il le dit lui-même. Et la sot lachem eferu toratecha. Des fois, pour faire la volonté de Dieu, il faut transgresser la Torah. En d'autres termes, nous sommes devant le début de l'exil concret après la guerre de Bar Korva. Les Romains nous dispersent aux quatre coins du monde. Nous ne pouvons pas nous permettre, puisque nous n'avons plus la possibilité d'avoir une véritable transmission orale, nous ne pouvons pas nous permettre d'être sans base unificatrice. Donc, je mets en place la Mishnah, qui nous sert de point de base, de référence. Mais à ce moment-là, nous devons nous poser la question. Quel est le choix de Rabbi Yehuda Hanassi de pourquoi il a commencé par ça et pas par ça? Et c'est donc là que la question de la première question retentit. Alors allons-y. Première Mishnah donc de notre étude, Mishnah Aleph, chapitre Aleph, Masechet Brachot. Me'ematai korin et shema be'arvin. Ha. D'abord, je vais lire et traduire de manière purement littérale a priori. À partir de quelle heure on peut dire le schéma? Le soir. Misha chez Akohanim Nirnasim le Rol Bitroumatam. C'est à partir de l'heure où les Kohanim peuvent manger leur terouma. Atsofa Ashmura Rishona, jusqu'à la fin de la première partie de la nuit. Ce sont les paroles de Divrei Rabbi Eliezer. Vechachamim omrim atratzot, jusqu'à la moitié de la nuit. Rabban Gamliel omer ad sheyale amud hashachar, jusqu'à ce que se lève le début du jour. Maaseh ubahu banav mi bet hamishte. Un jour, les enfants de Rabban Gamliel sont revenus d'un grand festin. Et à ce moment-là, quoi? Amrulo lo karino et shema. J'imagine que d'après le contexte, c'était plus tard que Chatzot Laila. Ils ont dit, on n'a pas encore fait le schéma du soir. Amar lahem, im lo ala amud ha-shachar, chayavim atem likro. Si le jour ne s'est pas levé, vous avez toujours l'obligation de dire le schéma. Velo zo bilvad amru, ela kol ma she'amru chachamim atratzot, mitzvatan ad she'yale amud ha-shachar. Tout ce que nos sages ont dit, c'est jusqu'à la moitié de la nuit, en vérité, c'est jusqu'au lever du matin. Mais pourquoi on nous a dit Atratzot? Lama Amro Atratzot. Atra, après il donne, excusez-moi, autrement il donne des exemples. Keter Achalavim Vaevarim, Mitzvatam Achalea Amoudashachar. Ce sont les parties des korbanot qu'on a le droit de faire nous disent nos sages, jusqu'à la moitié de la nuit, en fait, on peut les faire jusqu'au petit matin. Là, on pose la question. Pourquoi est-ce que si on a le droit de le faire jusqu'au lever du soleil, enfin au début du jour, pourquoi on nous a dit de le faire jusqu'à Tratzot? Pour empêcher l'homme de fauter et en fait de dire j'ai le temps, j'ai le temps, j'ai le temps, et finalement il va oublier. Voilà la première Mishnah de la Torah orale, littéralement traduite. Mais vous avez bien compris que notre étude n'est pas une étude littérale qui semble beaucoup trop superficielle. Il va falloir qu'on rentre dans la question. Parce que franchement, moi je pose la question. Vous croyez vraiment que Rabbi Yehuda Hanassi, lorsqu'il décide de commencer tout l'enseignement de la Torah orale, il commence par une question technique? À quelle heure on a le droit de dire le schéma la nuit? Quoi, tout ça pour ça, j'ai envie de te dire. Juste une question technique, c'est ça qui nous intéresse? Bizarre. Bizarre tout de même. Vous allez me dire, non, mais toute la Torah, elle est très importante. Toutes les halakhot, elles sont super importantes. Bien sûr. Mais vous comprenez que le point de départ d'un enseignement, c'est quelque chose qui est fondamental. Donc, je veux bien que tu me dises qu'il faut... que le créat schéma du soir est fondamental, mais il va falloir m'expliquer pourquoi. Parce que sinon, ça ne passera pas. Alors, venez maintenant qu'on a dit cela, eh bien, on va pouvoir commencer à expliquer cette Mishnah, non pas à l'Iba de Ilcheta, c'est-à-dire non pas simplement pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire au niveau de la Halakha, mais bel et bien au niveau de ce que cette Mishnah représente. Je vais relire le début de la Mishnah en le traduisant de manière un tout petit peu différente. Mais matai korin et shema be'arvin. En français, cela veut dire de quel droit puis-je être le témoin de l'unité du Créateur en temps d'exil? Voilà ce que veut dire la Mishnah. De quel droit puis-je être le témoin de l'unité du Créateur en temps d'exil? Ça paraît quand même sacrément loin de ce qui a marqué dans le texte. Eh bien, fondamentalement, pas du tout. Et venez, on va essayer de comprendre vraiment de quoi il s'agit. Cette Mishnah, la première question posée par toute la Torah orale est la question fondamentale sans laquelle nous ne pouvons pas continuer. Si on n'a pas répondu à cette première question, mais matai korin et shema be'arvin, alors on ne pourra pas continuer la Mishnah Bichlal. Que nous dit la Mishnah? À partir de quelle heure on peut, disons qu'on revient sur l'explication de base, à partir de quelle heure peut-on dire le Shema le soir? La réponse qui est donnée dans la Mishnah, elle est très bizarre. À partir du moment où les Kohanim peuvent manger de la terouma. Mais ce n'est pas une réponse. Si on t'a demandé une horaire, donne-moi une horaire. D'ailleurs, la preuve que ce n'est pas une réponse, c'est qu'après, pour ce qui est de la fin du Kriyat Shema, on te donne des repères temporels très clairs. Hashmoa Rishona, Chatzot, Amuda Shachar. Donc là, ça ne va pas. C'est quoi cette réponse à partir du moment où les Kohanim peuvent manger de la Trouma? D'autant plus que la Gemara, tout de suite derrière la Mishnah, va dire, mais c'est quoi cette façon de dire? En plus, je le sais. Quand les Kohanim peuvent manger de la Trouma, j'ai le vecteur temporel. Puisqu'il y a une autre Mishnah dans Maseret Edouyot qui me dit que quand les Kohanim peuvent-ils manger de la Terouma, à partir de Tzeta Kochavim. C'est-à-dire, je sais très bien, c'est quand l'heure où les Kohanim peuvent manger la Trouma, cette heure-là, c'est la sortie des étoiles. Donc, tu n'aurais pas pu me dire tout simplement à quelle heure on peut faire le schéma le soir? Ben, la sortie des étoiles. Les choses sont très claires. Si ça avait été ça l'objectif, de nous donner une explication, une première Mishnah technique temporelle de quand on peut faire le schéma, alors tu aurais dit à partir de la sortie des étoiles. La Gemara nous dit, si la Mishnah n'a pas été tournée comme ça, mais elle a parlé des Kohanim qui mangent leur terouma, c'est pourquoi, c'est comme le dit la Gemara tout simplement, qui est Havehaïka Mashmalan, C'est-à-dire que je voulais t'apprendre quelque chose. Aga milta orcha aga kamashmala. C'est-à-dire que la Gemara nous dit, je voulais t'apprendre quelque chose bederech aga. Je voulais t'apprendre quelque chose par l'intermédiaire de cette question qui a l'air technique. Je voulais t'apprendre quelque chose de beaucoup plus fondamental. Quelle est cette chose fondamentale? Des kapara la me akva. Que la kapara n'empêche pas. Tu n'as rien compris. Qu'est-ce que tu me veux? Bien, les amis, venez maintenant. On va rentrer concrètement dans ce que ça veut dire. Vous allez voir qu'en fait, c'est limpide. Si je reste dans le langage talmudique et que je ne suis pas encore dans la traduction du langage talmudique, le langage talmudique me dit la chose suivante. Il me dit, sache que pour dire le Shema le soir, c'est à l'heure où les Kohanim ils peuvent manger la Trouma. L'heure où les Kohanim peuvent manger la Trouma, c'est le soir. Bon, d'accord, mais qu'est-ce que ça m'apprend, cette histoire? Et en fait, la Gemara nous explique une chose importante. Que la kapara n'empêche pas. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Imaginez, vous êtes M. Cohen. Vous êtes M. Cohen et vous bossez au Beth Amikdash. Jusque-là, tout va bien, pas de problème. Vous bossez au Beth Amikdash et vous venez de terminer votre Mishmeret, votre garde du Beth Amikdash. Il est 4 heures de l'après-midi. Kol Tov, vous rentrez à la maison. Vous avez reçu aujourd'hui pas mal de korbanot ratat, shlamim, ce que tu veux. Et donc, vous avez prévu, ce soir, vous avez appelé votre femme en disant, chérie, ce soir, gros barbecue à la maison. Ah, ben, c'est sympa. Avec toute la viande qu'on va ramener du Beth Amikdash, on va pouvoir manger à la maison Big Doucha. Pas mal de choses. Mais attention, c'est pas seulement les steaks Big Doucha. J'ai ramené également de la trouma. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui m'a amené de la trouma, de ses fruits. Il m'a amené la trouma de ses fruits, il a fait mode de son blé. Et donc, on va se faire aussi une tarte aux pommes bitrouma. Il a fait, la femme est très très heureuse, ce soir ça va être un repas Big Doucha, Chaval à l'Azman. Norak Big Doucha, et la gamme betahara. Bien sûr, il faut que ce soit également en état de pureté. Il a fait mode. Le problème, c'est que notre bonhomme, au moment où il sort du Beth Amikdash, il ne fait pas attention, il y avait une flaque d'eau, il a glissé dans l'eau et il est tombé. Seulement, il a réussi à faire un salto arrière en posant la main au sol et il s'est retrouvé sur ses deux pieds, figure incroyable, montrant que les Kohanim sont également de grands sportifs. Tout le monde qui était là l'applaudit incroyable. Seulement, en se relevant, il se rend compte que pour faire sa pirouette, eh bien, il a mis sa main sur le sol, et sur le sol, il y avait un lézard mort. Il vient donc de toucher un lézard mort. Il ne pourra donc pas, a priori, manger de la trouma. Il est tamé. Que faire? Eh bien, nous dit la Gemara, pas de problème, jusqu'au coucher du soleil, il va aller au mikvé. Une fois qu'il ira se tremper au mikvé, eh bien, lorsque seront sorties les étoiles, il pourra quand même manger la terouma. On dit, oui, mais attention, il n'a pas encore amené la capara. La capara de n'avoir pas fait attention et d'avoir mis la main sur un lézard mort, il l'amènera demain matin au Beth Amikdash. Il pose la question à la Gemara, et si jamais il ne se relève pas demain matin, il meurt dans la nuit, ou si jamais demain il n'y a plus de Beth Amikdash, ma Corée, que faire à ce moment-là? Eh bien, à ce moment-là, la Gemara nous dit « Kapara l'homme à kevet ». La kapara n'empêche donc pas de manger de la terouma. Ça, c'est le langage talmudique. Maintenant qu'on a appris le langage talmudique, on va pouvoir apprendre ce qu'il veut nous dire à nous. « Mais matai korin et shema be'arvin » C'est ainsi que Rabbi Udanasi ouvre sa Torah orale écrite. Nous sommes en l'an 200, plus minus. À cette époque-là, la spiritualité qui monte, en Eretz Israël et dans l'Empire romain, c'est le christianisme. Le christianisme est de plus en plus présent. Les dogmes sont en train d'être mis en place. Les premiers chrétiens ont fait le boulot. Alors, on n'est pas encore à Constantin, ça sera 120 ans plus tard, qui va transformer l'Empire romain en Empire chrétien, mais on est quand même déjà au balbutiement du christianisme moderne. Et le problème, c'est qu'il va falloir faire face à ce christianisme moderne, c'est-à-dire au ta'anot du christianisme. Or, la grande ta'ana, la grande question, même pas une question, la grande opposition du christianisme au judaïsme, c'est de dire la chose suivante. Nous ne remettons pas en cause que vous avez été choisi par Dieu. Nous ne sommes pas musulmans. Les musulmans rejettent l'idée qu'il y a eu Am Israël en tant que Am Hashem. C'est-à-dire, comprenez-moi bien. Les musulmans, eux, ne disent pas que Dieu nous a choisis et qu'il nous a abandonnés et qu'il a choisi autre chose. Les musulmans disent que nous avons falsifié la parole de Dieu. Quand en vérité, il n'a jamais voulu se dévoiler au peuple juif, la Akeda, ce n'était pas la Akeda de Yitzhak, mais la Akeda d'Ishmaël. En d'autres termes, pour les musulmans, la question ne se pose pas. Nous sommes des menteurs. Mais pour les chrétiens, ce n'est pas du tout ça la problématique. Les chrétiens disent, nous sommes bien conscients qu'il y a eu l'Ancien Testament. Nous sommes bien conscients qu'il y a eu Israël. Mais Israël a fauté. Et sa plus grande faute et sa dernière en date, d'après eux, à l'époque, c'est que nous n'avons pas accepté Monsieur Messie. Pas Lionel, hein, l'autre. Monsieur Machiach. Monsieur Jésus. Et comme Monsieur Jésus était lui-même l'accapara du monde, vous, juifs, l'ayant rejeté, eh bien, vous ne pouvez plus avoir de capara. Puisque à l'époque, lorsque vous faisiez une faute, pas de problème, on vient en Beth Amikdash, on amène son corban capara. Mais aujourd'hui, on est en l'an 200, il n'y a plus de Beth Amikdash. Donc, si vous avez fait une faute, eh bien, il y aura forcément un problème de capara. Vous ne pourrez pas emmener la capara. Et donc, vous êtes condamné à être fondamentalement désavoué par le Créateur. Eh oui, car En tzadik ba'aret sacheria asetov velo yecheta, nous dit Kohelet. Donc, vous avez forcément fauté à un moment donné, pas de capara possible, terminé, tout le monde descend. Ainsi, eh bien, vous étiez Israël, pas de problème. Mais vous ne l'êtes plus. Et à partir de maintenant, nous sommes Israël. Et c'est la base de la théologie chrétienne et particulièrement catholique qui commencera chacune de ses messes en disant « Nous, le vrai Israël ». Ce qu'on appelle la théorie du « Verus Israël ». Voilà comment ils prétendent nous remplacer, le fameux Nouveau Testament. C'est-à-dire, je reconnais qu'il y a eu un intérêt au peuple juif, mais ça y est, c'est terminé. Et le problème, c'est qu'il va falloir répondre à cette tâne. La Gemara nous dit « Akapara l'homme à Kevet ». Et en fait, ces paroles se retrouvent finalement tellement bien dans la Mishnah en elle-même. Puisque la Mishnah va nous dire « Mais matai korin et shema be'arvin ?» Mais matai, ça ne veut pas dire en araméen et matai. Et matai, ça veut dire quand. Si j'avais marqué et matai, korin et shema be'arvin, ça aurait voulu dire tout simplement quand est-ce qu'on peut dire le shema le soir. Mais et matai, ça veut dire depuis quand. Alors évidemment qu'on peut le comprendre au sens purement technique, depuis quelle heure. On peut aussi le comprendre dans le sens. Mais depuis quand? De quel droit? Vous savez, comme on dit que depuis quand tu te permets de faire ta X ou Y chose? Mais matai, korin et shema. Mazé likro et shema. Likro et shema, ça veut dire proclamer haut et fort que Shema Israël, Hashem Eloheinu, Hashem Echad. En d'autres termes, mazé likro et shema, c'est devenir le témoin, le proclamateur, le dévoileur de l'unité d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. Shema Israël, Hashem Eloheinu, Hashem Echad. Donc, mais matai, Corinne et Shema, matai, Be'arvin. Be'arvin bezman shel Eader. Dans le moment où tu n'es plus existant finalement. La nuit, je vous le rappelle, dans la littérature de nos sages, c'est l'exil. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont pris ça comme étant l'exemple ? Parce que dans la nuit, l'homme dort. L'homme est fondamentalement présent, mais incapable d'influencer. Et ça, c'est peut-être un des grands enseignements. Voilà, je digresse. Je digresse, mais ça, c'est le propre de l'enseignant de Torah, c'est le propre du Talmud. Hein. Le Talmud, il digresse tout le temps. Hein. Donc moi, si j'enchaîne le Talmud là maintenant, je suis obligé de digresser. Mais je pense que c'est un des grands enseignements que je vais tirer de ce corona, par exemple. Vous savez, on connaît tous des gens, des proches qui sont tombés malades, plus ou moins gravement. Je prie également et je dédie le cours à la Refoua de Claude Ben Esther, qui se réveille très bientôt et en bonne santé. De son petit corona, là. Et je me rends compte, parce que, je vous raconte, donc il s'agit du beau-père de la femme de mon frère. C'est compliqué, hein, c'est tout ça. Et il me raconte que, donc, ils l'ont endormi en France, à l'hôpital, machin, parce qu'il a plus de 80 ans, et corona, ignanim. Et par contre, il est conscient. C'est-à-dire qu'il me raconte que lorsque les petits-enfants viennent lui rendre visite, eh bien, une fois, il a même versé une larmichette. Il y avait des larmes qui coulaient au moment où les petits-enfants étaient en train de lui parler. Et ça m'a fait prendre conscience d'une chose, cette réalité où tous ces gens sont endormis dans le coma artificiellement. C'est ça, l'exil. L'exil, c'est quand tu es là, tu ressens, mais tu ne peux pas avoir un impact sur la réalité. C'est terrible. Je pense que j'ai enfin compris qu'est-ce que ça voulait dire, l'exil. Le peuple juif, en exil, il ressent les choses, il vit les choses, il souffre les choses, mais il ne peut pas influencer sur ce qui se passe. Et donc, Bémet, mais Matai, Corinne et Shema, Barvin. Et donc, à ce moment-là, on nous dit, Misha, Sha, Kohanim, Nichasim, Lechol, Bitroumatan. À l'heure où les Kohanim. Pourquoi ? Pour que tu saches que la Kapara l'omé à Kevet. Oui, c'est vrai, j'ai plus de Misbéar Kapara, je suis en exil, j'ai plus le Bet Amikdash. Aval, sache que ce n'est pas parce que j'ai plus le Bet Amikdash que je ne vais pas continuer à remplir mon rôle d'être celui qui dévoile la Kadosh Baruch Hu. Nous dira le Rambam, aujourd'hui qu'il n'y a plus de Misbéar Kapara dans Hilchot Teshuvah, il dira, il n'y a plus de Misbéar Kapara, Zenachon, ok, Avalayom, Atshuva, Ya Kapara. Si à l'époque il fallait et d'Atshuva et le Korban au Bet HaMikdash, depuis la destruction du Bet HaMikdash, la Tshuva fait office de Kapara. Donc pas une vraie Kapara à 100%. Mais quand même, il y a quelque chose. Et ce qui reste, eh bien, c'est l'eau me'akev. Kapara, l'eau me'akva. Vous comprenez que c'est la première question qui est posée. C'est donc la première réponse qu'il faut donner. Parce que si on n'a pas de réponse à donner au christianisme, ils vont continuer à dire on n'est pas légitime pendant l'exil. Et donc, on va dire non, on est légitime. Parce que ce n'est pas parce qu'on a fauté. Dès qu'on a fauté, mitnechatayenu galinu ma'artsenu, c'est pas qu'ils l'ont inventé, on le dit dans notre filote. Bien sûr qu'on a fauté, et bien sûr qu'on a été envoyé en exil. Et pourtant, malgré l'exil, nous continuons à être ceux qui dévoilent l'unité du Créateur. D'ailleurs, heureusement qu'on continue à être ceux qui dévoilent l'unité du Créateur, et qu'on n'a pas laissé ça aux mains des chrétiens. Parce que tu parles d'une unité. Ah la Trinité, c'est quand même pas mal. Et vous allez me dire, non, alors très bien, on aurait pu attendre Mahomet, l'islam c'est monothéiste. Nahon. Sauf que l'islam ne proclame pas l'unité du Créateur. L'islam proclame l'unicité. Voilà, je cherchais le mot du Créateur. C'est-à-dire que pour l'islam, il n'y a qu'un seul Dieu. Pour nous aussi, il n'y a qu'un seul Dieu, mais ce n'est pas ça qu'on dit. Nous, on ne dit pas que Shema Israël, Hashem Eloheinu, Hashem Yachid. On ne dit pas ça. Nous, on dit Hachem Echad. Que Dieu est un. En d'autres termes, que tous les domaines du monde dépendent d'Akadosh Baruch Hu. La question est donc posée, mais Matakon et Shmabarvin. La réponse est donnée. En fait, ça ne veut pas dire du tout une question technique. C'est une question fondamentalement maoutite de savoir est-ce que le peuple juif peut continuer de remplir son rôle. Bagalout. Vatshuva Isheken. Et ainsi, pendant 2000 ans d'exil, le peuple juif a gardé son rôle, si bien que des individus du peuple juif ont réussi à influencer énormément le monde entier sur la connaissance biblique et la connaissance du Créateur. Ils n'ont pas eu d'influence au niveau global de ce qui se passe dans le monde, mais au niveau de la perception du Créateur, il est évident qu'ils ont eu toujours cette influence. Le fait que le christianisme et que l'islam aient pu tellement se propager, c'est parce que, aux côtés des chrétiens et des musulmans, il y avait toujours, que ce soit de manière convertie ou que ce soit au contraire, de manière la Havdil, de manière à l'intérieur du Beit HaMidrash, eh bien, des juifs pour continuer à enseigner cette dimension de Hachem Echad. Donc, mais Matai, quand il est chez moi, Marvin, parce que la capara, elle est dans ma cavette. Donc, je peux le faire même en période d'exil. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand tu dois être celui qui prône l'unité du Créateur? Eh bien là, la Mishnah nous donne une marloquette. Jusqu'à quand tu dois remplir ce rôle? Est-ce que c'est Sofash Mora Rishona? C'est-à-dire la première moitié de la nuit? Enfin non, pas la première moitié, le premier quart de la nuit? Est-ce que c'est cela? On va nous dire plus tard que Arba Mishmarot avait Laila ou Shalosh Mishmarot avait Laila, l'homme est chané. Est-ce que c'est le premier tiers ou le premier quart de la nuit? C'est pas très important. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça représente pour nous? Ça représente le moment où on s'enfonce dans la nuit. C'est-à-dire que la Shmura Rishona, sauf à Shmura Rishona, c'est le moment le plus dramatique de la nuit. Comprenez-moi bien. Il y a le coucher du soleil, c'est pas cool, mais tu peux encore te rattacher à la journée qu'il y avait avant. Tu as encore des bribes, ce qu'on appelle la shkia, tu as encore de la lumière. Le soleil s'est couché, mais il y a encore de la lumière. Chatzot laïla, la moitié de la nuit, c'est le moment où on va commencer à revenir vers la lumière, même si on ne le voit pas encore. Le début de la lumière, c'est le début de la lumière. Mais sauf à Shmura Rishona, il fait noir. Et je vais encore devoir passer encore toute une Hashmoura dans le noir avant de commencer à passer de l'autre côté. En d'autres termes, sauf à Hashmoura Rishona, c'est la période la plus dramatique de l'exil. C'est le premier avis qui est donné ici. Le premier avis, c'est celui de Rabbi Eliezer, qui nous dit jusqu'à quand tu peux prononcer, eh bien jusqu'à ce qu'il y ait encore des restes de la lumière qu'il y avait avant la nuit. Pour Rabbi Eliezer, jusqu'à quand tu peux être le témoin de l'unité du Créateur? Uniquement tant qu'on a encore les vestiges de la civilisation juive de l'époque. De l'époque où elle avait encore sa lumière et sa grandeur. En d'autres termes, pour Rabbi Eliezer, si on y réfléchit deux secondes, prenons l'idée, c'est-à-dire on va essayer de faire les choses de manière simple. Hein, on va arrondir, d'accord? On ne va pas être trop précis à ce niveau-là. Si on dit que l'exil, c'est 2000 ans, c'est un petit peu moins, mais disons que c'est 2000 ans, alors Chatzot Laila, c'est après les 1000 premières années de l'exil, et à ce moment-là, Hashmura Arishona, si on admet que Shalosh Mishmarot avait Laila, alors ça veut dire qu'il va falloir faire 2000 divisé par 3, et donc ça veut dire que c'est à peu près au bout de 700 ans. Si c'est divisé par 4, alors c'est à peu près 500 ans. Ok ? Maintenant, réfléchissons deux secondes. Rabbi Eliezer nous dit, jusqu'au moment où on peut encore avoir les bribes de, finalement, ce qui était à l'époque la grandeur de la civilisation juive, alors eh bien, on peut continuer à être le témoin. C'est-à-dire que pour nous, ça nous amène aux années plus minus 500. Plus ou moins. Plus ou moins, plus ou moins. On va pas s'exciter. 500, 550, l'homme chané. Pas très important. Mais ça veut dire quoi, ça? 550, plus ou moins. Zatsum. Puisque ces années-là sont tout simplement les années qui marquent la fin du Talmud. Le Talmud, qui est le dernier livre qui va être accepté dans tout Israël, qui est encore les bribes de l'autorité du Sanhédrin. En d'autres termes, Rabbi Eliezer nous dit, tu ne peux continuer à proclamer l'unité du Créateur que lorsque, jusqu'au moment où tu as la fin de l'influence de la journée de la veille, de la lumière de la veille. Et ça correspond, au niveau historique, à ce qui s'est passé à la fin du Talmud. Ah oui, mais attention, vient la halakha. La halakha nous dit, je reprends donc la Mishnah, nous dit, « Vechachamim omrim atratzot ». Non, on peut continuer à dire qu'on est les témoins de l'unité du Créateur jusqu'à la moitié de la nuit. Pourquoi la moitié de la nuit? Eh bien, parce que, si tu veux, la moitié de la nuit, c'est, elle est la moitié de la nuit par rapport. Par rapport à quoi? Par rapport à la fin de la journée. Donc non, pour moi, je pense que l'influence qu'il y a de la fin de la journée se prolonge non pas seulement jusqu'au noir, noir, noir de la nuit, mais bel et bien jusqu'à la moitié de la nuit. Jusqu'à la moitié de la nuit, il y a encore l'influence de la lumière qu'il y avait auparavant. Et donc, jusqu'à la moitié de la nuit, eh bien, tu peux continuer à être celui qui proclame l'unité du Créateur. Il y a encore l'influence d'Israël, malgré sa léthargie, jusqu'à la moitié de la nuit. On l'a dit, si on fait notre calcul grossier, la moitié de la nuit pour nous, c'est quoi? C'est les années 1000. C'est plus ou moins les années 1000. Ma makara sham. Oh oh. Oh oh makara. Tu m'étonnes makara. Ma shekara, c'est que c'est le dernier moment où Am Israël avait un semblant d'unité. Puisque à l'époque des Géonim, eh bien finalement, l'écrasante majorité du peuple juif était réunie autour des yeshivot de Babylone. Il y avait encore certains, il y avait une yeshivat à Géonim Be'eretz Israël, mais l'écrasante majorité des juifs était à Babylone. Et lorsque la yeshiva de Géonim Be'eretz Israël a fermé, eh bien, véritablement, on peut dire que tout le peuple juif dépendait de Babylone. Et ce n'est qu'après qu'on va commencer à véritablement parler, après les années 1000, 1100, Rashi, qu'on va parler d'Ashkenazim, Sfaradim, et un éparpillement, en veux-tu, en voilà, et où il n'y aura plus de rikouziout, il n'y aura plus de centralité du peuple juif. En d'autres termes, nous dit Srachamim, jusque quand tu peux avoir encore la force d'être celui qui témoigne de l'unité du Créateur, lorsqu'il y a encore un semblant d'unité au sein du peuple juif? Que ce soit au sein du peuple juif ou que ce soit ressenti également par les nations qui voient comme étant la centralité du peuple juif à un endroit. Mais une fois qu'il n'y a plus cette unité-là, j'ai envie de te dire, terminé, tout le monde descend. Rabbi Gamliel, il vient et il dit, « Abotai, lo nachon. » Il est évident qu'on peut continuer à être Megalim et Akadosh Baruch Hu ad sheyale amud ashacha, jusqu'à ce que la lumière revienne. Et à ce moment-là, il n'y aura plus de débat. C'est clair, une fois que la lumière revient, il n'y a plus de débat. Mais nous dira Rabban Gamliel, jusqu'à ce que la lumière revienne, eh bien, on peut continuer. On va puiser jusqu'à ce que la lumière revienne, on va puiser de la lumière qui s'est éteinte. On va puiser de ce qu'il y avait avant pour préserver ce qu'il y aura après. On dira Ben Gamliel, Ad sheyale amud ha-shachar. Et il ne s'agit pas que de Kriyat Shema, mais il s'agit également de toutes les autres choses qui sont les corbanotes, qui sont également finalement le lien avec Dieu, eh bien ce lien avec Dieu continue à Tcheyale Amud HaShacham. Certes, la halakha est comme Chachamim, mais nous dit Rabban Gamliel, la halakha est comme Chachamim, là-bas, pour pas que tu oublies, pour pas que tu viennes à penser que comme ton rôle, il est sur le très très long terme, bien tu te dis, c'est-à-dire pour l'instant, je m'occupe de autre chose. Je m'occupe de survie. Je m'occupe de survie, je m'occuperai plus tard de l'égalote à Kadosh Baruch Hu Baolam. Je suis en exil, j'ai d'autres choses à faire. Eh bien, la réponse est non. Ce n'est pas que tu dois délaisser les autres choses de ta survie, mais tu n'as pas le droit, tu n'as pas le droit de laisser à l'abandon le message qui est celui du peuple juif. Alors, pour l'instant, on ne t'écoutera pas. L'homme est chané. Il faut quand même que tu le dises. Parce que tu crois qu'on ne t'écoute pas, mais ça fait son petit bonhomme de chemin. Je me souviens, il y a quelques années, le Rav Cherki m'avait demandé d'envoyer à peu près une 500aine de lettres. De lettres à tous les rabbins qui officient dans une communauté en France. Il faisait un grand congrès pour expliquer ce qu'était, en France, faisait ce congrès, pour expliquer ce que c'était que la Torah des Bnei Noach. Et donc, j'ai aidé le Rav à mon petit niveau. J'ai écrit une 500aine de lettres et d'adresses. Je les ai postées. Et fait mode. Le Rav m'a expliqué qu'au congrès, il y a 3 rabbins de toute la France qui sont venus. Et c'était plus ou moins les rabbins qui organisaient avec lui. Je lui ai dit, mais c'est donc un fiasco terrible. Il m'a dit, non, c'est pas un fiasco. Je pensais qu'il y aurait personne. Il y en a eu 3. C'est bien. Il y avait plein de goyim qui étaient là. Mais des rabbins, il n'y avait pas. Il a dit, mais ça va faire son petit bonhomme de chemin. Par hasard, ou pas par hasard, quelques semaines plus tard, je me suis retrouvé moi-même en France. Je t'ai envoyé pour parler dans des écoles juives. Et donc, Shabbat, je n'avais pas de travail, je suis parti chez mes parents. Et j'ai demandé à mon oncle, qui avait reçu la lettre, je lui avais envoyé également, qui est grand rabbin de la Moselle. Je lui avais dit, dis-moi, pourquoi finalement, toi, tu n'as pas été au congrès? Et il m'a répondu, ma tarotte. Je comprends ce que le Rav Cherki veut faire, de parler de la vocation universelle du judaïsme et tout ça, Torah de Ben Noir. Mais tu comprends que nous, on a tellement à s'occuper que lui, il n'épouse pas une Goya, que lui, il ait fait la Brit Mila, qu'on ne nous empêche pas de faire la Shrita et tout ça. On ne peut pas maintenant s'occuper du message universel du judaïsme. Et là, j'ai compris quelle était l'erreur. Parce qu'évidemment, tu ne peux pas délaisser les problèmes actuel, ultra actuel de ta communauté. Mais pour que ces problèmes-là puissent être résolus véritablement, il faut que tu gardes un message de grandeur et d'universalisme du judaïsme. Ça ne peut être qu'avec un vrai message juif qu'on peut, un, ramener les gens à la Torah, et deux, et bien tout simplement, avoir une influence sur le monde. Car aujourd'hui, le peuple juif a de nouveau une influence dans et sur le monde. En d'autres termes, Rabotai, eh bien, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Nous dit Rabban Gamliel, Behemet, c'est vrai que la mitzvah, elle est achée à la Moudashacha. Mais moi, je te dis, il faut que tu le fasses. Pourquoi on t'a demandé de le faire jusqu'à Chatzot? Pour pas que tu te dises, j'ai le temps de le faire plus tard. Maintenant, je m'occupe d'autre chose et je m'occuperai de ça plus tard. Bien non. La Torah me dit, tu dois t'occuper de ça maintenant. Mais Matai, Corinne et Shema Be'arvin, de quel droit on se permet de dévoiler l'unité du Créateur pendant l'exil? Eh bien, on peut se le permettre parce que l'accapara ne l'empêche pas. Certes, nous sommes en exil, certes, nous avons fauté, mais nous continuerons à réaliser notre rôle. Et Mashenachon, ce qui est vrai en période d'exil, est infiniment plus vrai en période qui est la nôtre, en période de Géoula, où il est évident que nous avons retrouvé notre statut international, que nous avons retrouvé notre paix, que nous pouvons avoir maintenant, eh bien, un avis sur le Nasa, sur ce qu'il faut faire et sur ce qui doit être fait au sein du monde. Et donc, plus que jamais, aujourd'hui, nous devons de nouveau crier haut et fort « Shema Israël, Hashem Eloheinu, Hashem Echad ». Et ça, si vous voulez, c'est le propre de la deuxième Mishnah qui nous dit bah, « Ok, mais Ne'ematai Korin et Shema Beshacharit ?» Et la question est de savoir, est-ce que le cri de Shema de Shacharit, c'est-à-dire de la Geoula, pas ce cri durant l'exil qui va nous permettre d'arriver à la Geoula, mais ce Shema de la Geoula, c'est-à-dire un Shema où cette fois les choses sont claires, est-ce qu'il faut attendre que ce soit clair, clair, clair? Ou est-ce qu'il faut attendre que ce soit juste un peu clair? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va attendre entre Trelet Velavan ou entre Trelet Vekarti? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on attend entre Trelet Velavan, c'est-à-dire que les choses doivent être bien claires, on fait la différence entre jour et nuit, ou est-ce que lorsque la différence est à peine palpable et que tu pourrais te tromper, eh bien, tu dois déjà comprendre que c'est le moment de dire le schéma, cette fois non plus en mode survie, mais en mode c'est le moment de retrouver véritablement la paix chez l'âme Israël. Eh bien, aujourd'hui, nous pouvons dire que nous réalisons cette première Mishnah du chasse. N'en déplaise à nos amis chrétiens, nous avons toujours continué à demeurer à Hachem, malgré l'exil, ce que Dieu a choisi et qu'il n'abandonnera jamais. Nous continuons, nous avons continué à le proclamer haut et fort durant tout l'exil et nous continuons aujourd'hui avec cette fois une petite différence, c'est que notre message n'est plus seulement entendu dans l'intérieur de la communauté d'Israël, mais il est bel et bien entendu au sein du monde entier. Voilà quelle était la première question posée par Rabbi Yehuda Hanassi. Une fois que cette question-là a été eh bien, tranchée, alors c'est bon, on peut s'occuper de tous les autres domaines profonds du judaïsme. Et c'est ce que nous-mêmes, nous ferons la semaine prochaine. À bientôt pour de nouvelles aventures de la Neshama de la Mishnah. S'il y a des questions, je laisse 2 secondes pour des questions avant de fermer le YouTube. Donc, s'il y a des questions, c'est parti. Allez-y. Question, pas de question. Pas de question. Je laisse encore 30 secondes. Très bien. Eh bien, je vois qu'il n'y a pas de questions. Donc, eh bien, je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures de la Neshama de la Mishnah. À bientôt, les amis.